Merci beaucoup, Benoît. Je suis très contente d'être ici. Le sujet est difficile. Je n'ai pas beaucoup écrit dans ce domaine. Je me suis intéressée en essayant d'aborder certains aspects. Et aujourd'hui, le thème est large. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un peu une exploration. Une exploration du concept et une exploration du recours à ce concept dans le champ des activités des organisations internationales. J'analyserai certaines organisations, les activités de certaines organisations internationales, mais il est sûr que c'est un travail qui pourrait être conduit finalement pour toutes les organisations internationales, puisque je crois que ce qu'on appelle standard, ou ce que je vais essayer de dénommer standard dans le cadre de cette conférence, se retrouve dans le cadre des activités de toutes les organisations internationales. Alors, avant d'initier une réflexion sur la raison d'être des standards dans la pratique des organisations internationales, et puis de m'interroger sur le rôle de ces standards, la raison d'être, ce que je voudrais, c'est tout d'abord tenter de donner une définition de ce que j'appellerais standard, tout en sachant que c'est une définition au contour fuyant. Et ça, c'est la grande difficulté du sujet, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas de définition précise du concept. C'est un peu un mot attrape-tout. C'est un mot attrape-tout et je crois que ça vient du fait que les fonctions qu'il doit remplir le rendent de plus en plus important sans qu'on ait encore une approche conceptuelle et systématique, si l'on peut dire, des standards. Alors je ferai cela et puis j'essaierai de tracer quelques lignes qui me paraissent importantes de l'ordre international, puisque quand j'ai regardé le magnifique programme que vous avez eu sur les standards internationaux, c'est finalement dans beaucoup de champs disciplinaires différents et il n'y a pas encore eu de conférence véritablement sur le champ international. Donc j'essaierai de souligner certaines spécificités de ce champ pour comprendre la raison d'être et le recours à des standards. Alors, tout d'abord, le concept, c'est un concept polysémique, ça veut dire que c'est finalement, il y a plusieurs sens. Alors, quelquefois, on fait référence au degré d'obligatoriété, c'est souvent le cas, hein, ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. L'on fait aussi référence à la normativité, si l'on peut dire, du standard. Que dit-il véritablement? Est-ce que c'est un postulat général? Est-ce que c'est un postulat plus spécifique, plus ad hoc? L'on fait aussi référence au contenu, je reviendrai sur cela, c'est que très souvent l'on dit finalement les standards sont attachés aux matières dites techniques, encore faut-il entendre sur la notion de matière technique, et puis l'on fait référence à la notion de standard quand on parle de la fonction de certaines normes internationales. Donc ce sont des traits qui me paraissent importants. Le terme même, je pense qu'il pose beaucoup de difficultés puisque j'ai pas mal travaillé sur les accords de l'OMC qui font référence aux standards internationaux. Et il est par exemple intéressant, je reviendrai sur ça, mais il est par exemple intéressant de se rendre compte que dans le cadre de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, donc c'est tout ce qui est santé-commerce, hein, les rapports santé-commerce, la fameuse affaire OGM récente a été plaidé dans le cadre de cet accord, l'on fait référence, on utilise indifféremment les termes de, les notions de normes, directives et recommandations. Il va y avoir des distinctions en termes d'obligatoriété. Mais ce que l'on voit, c'est que finalement, il y a un flou, terminologique. Et donc, c'est un concept qui répond à certaines fonctions, à un certain rôle, mais il a des contours fuyants et il n'y a pas une terminologie fixe arrêtée sur ce concept. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans la pratique internationale, ce que j'ai trouvé comme autre critère de définition, c'est que l'on peut voir dans la pratique certains textes internationaux, instruments, nous dire que certains organes ont un pouvoir d'édicter des standards. Donc il y a, la notion de standard va aussi pouvoir être définie par rapport à l'autorité qui a le pouvoir d'édicter ces standards. Un exemple, à mon avis, c'est la commission du Codex Alimentarius. C'est un organe conjoint de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et de l'Organisation de l'alimentation. Et c'est un organisme qui a pour vraiment finalité de négocier des standards qui seront ensuite repris, qui pourront être repris notamment dans le cadre de l'OMC, sur les échanges internationaux. Donc, ce que l'on voit, c'est que le pouvoir d'édicter des standards, c'est aussi un moyen de pouvoir dresser une catégorie. Un autre mode, je pense, de définition, c'est qu'au-delà de l'autorité qui aurait le pouvoir d'édicter des standards, dans quelques textes, on va trouver aussi le fait qu'on va nous dire, ce sont des standards, le résultat de travaux qui ont suivi certaines formalités, qui ont suivi certaines procédures, etc. Donc c'est par rapport au processus engagé que l'on va définir le standard. Et cela, pour ceux que cela intéresse, pour ceux qui ont envie d'aller se plonger dans toutes les technicités du droit de l'OMC, vous allez voir que là, il y a floraison de pensées sur le standard et l'accord sur les obstacles techniques. L'accord OTC, dans son annexe, donne une définition de la notion de standard qui, finalement, rejoint cette idée de processus qui serait agréé pour pouvoir, pour qu'on puisse parler de standard. Pour ceux qui s'intéressent à l'ISO, je crois qu'il y a des gens dans cette salle, il est intéressant aussi de voir que l'annexe de l'accord OTC fait référence explicitement au standard ISO. Voilà, alors, donc, c'est un peu une déception sans doute, mais finalement, il y a des moyens de définition du standard. À mon avis, c'est une liste non exhaustive. Il y aurait peut-être d'autres moyens d'appréhender cette notion, mais c'est un peu ces différents critères que j'ai retenus pour pouvoir identifier ce que serait standard dans la pratique, dans le champ des activités des organisations internationales. Alors, après avoir donné des éléments de définition de la notion de standard, ce que je voudrais, c'est rappeler certains traits particuliers de ce que j'appelle la scène internationale. La scène internationale, c'est plus large que l'ordre juridique international. L'ordre juridique international, vous êtes connaisseur de droit international public, les fameux sujets de l'ordre juridique international que sont les États, un peu moins de 200, et puis un très grand nombre d'organisations internationales, plus de 300, qui ont ce monopole de faire le droit, de faire le droit positif. Et alors, l'on ne disconviendra pas qu'ils ont cette capacité, cette prérogative même, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'ils soient seuls sur la scène internationale, parce qu'il y a d'autres acteurs qui aussi sont en relation avec eux, ont des comportements internationaux, et je crois qu'il est aussi important de les prendre en compte, notamment du fait des interactions qui existent entre les États et les acteurs non étatiques, ou entre les organisations internationales et les acteurs non étatiques. Alors, quand je parle d'acteurs non étatiques, c'est à la fois le milieu associatif, les organisations non gouvernementales à finalité d'intérêt public, mais c'est aussi tout le secteur privé dans sa grande dimension. Là aussi, finalement, le secteur privé devient de plus en plus actif sur la scène internationale et accepte aussi de pouvoir se comporter, de définir certains modes de comportement. Alors, revenons à cette idée justement de scène internationale. Quand on parle en droit international public, finalement, et que l'on parle en termes de droit positif, l'on se réfère à certaines catégories de sources du droit international qui sont extrêmement importantes. Ce sont les traités internationaux, négociés entre les États ou aussi entre États et organisations internationales. C'est la coutume internationale et c'est aussi les fameux principes généraux du droit qui sont tirés de la pratique des ordres juridiques nationaux, principes généraux du droit, notamment dans le domaine de tout ce qui est justice pénale, administration de la justice, ils ont une place importante à jouer. Mais, à mon sens, cela n'épuise pas la matière internationale et la pratique, ce qu'on appelle la pratique internationale, le corpus des habitudes et des usages au plan international. Et c'est dans ce sens que je voudrais me placer, c'est que ça sera dans l'ordre international. Je considère que les instruments de droit international ont un rôle extrêmement important à jouer. On pourrait y revenir dans la discussion. C'est des bases notamment de légitimation de beaucoup d'attitudes. Mais ils n'épuisent pas, ils ne suffisent pas à pouvoir organiser la scène internationale et la société internationale. Un autre aspect qui me paraît important, il y a des spécialistes de droit privé dans cette salle, c'est que la mondialisation, elle a produit le fait que les acteurs privés ont des comportements de plus en plus nombreux en termes transnationaux. On ne peut pas le nier. Alors, on a eu tout ce débat dans les années 70 sur la Lex Mercatoria. À mon avis, c'est un débat un tout petit peu éculé. De toute façon, il y a des usages, il y a des pratiques internationales qui se dessinent. Est-ce que c'est un ordre juridique autonome? Je crois que c'est plus ça, véritablement, la question. Il est ainsi intéressant de voir que dans le domaine électronique, le commerce électronique, la régulation d'Internet, vous avez aussi ce qu'on appelle la Lex Electronica, et là, vous avez nombre d'écrits sur cela, où l'on voit qu'on a affaire à des pratiques internationales qui ont une importance très grande. Alors, est-ce que ce sont des standards ou est-ce que c'est autre chose? Ça pourrait être aussi un sujet de discussion. Donc, après ces quelques mots d'introduction sur la notion de standard, ce qu'est la scène internationale telle que je l'entends pour pouvoir évaluer le rôle des standards, je voudrais faire un exposé en quatre points. Tout d'abord, essayer d'inventorier ce que j'appelais les nouvelles exigences qui ont conduit à ce que l'on s'intéresse aux standards, est-ce que des standards soient formulés. Donc, ce sera dans un premier plan, point, les nouvelles exigences et le recours aux standards et normes dans la gouvernance internationale. Dans un deuxième temps, je voudrais parler d'une fonction qui me paraît très importante, une fonction importante des normes que jouent les normes et les standards. Normes et standards, j'utiliserai de manière indifférente, c'est ce qui se passe notamment dans le cadre de l'OMC, quand on se réfère aux standards. Je pense que ce sont des instruments de socialisation sur la scène internationale, des instruments de socialisation importants, et j'essaierai de le démontrer. En troisième lieu, je mentionnerai la fonction de normalisation des comportements, notamment dans le cadre de l'OMC. Et puis, un quatrième point, ce sera la fonction de responsabilisation. Pourquoi est-ce que finalement les standards participent à la responsabilisation de nombreux acteurs sur la scène internationale? Alors, premier point, les nouvelles exigences qui conduisent au recours de plus en plus important aux standards et normes dans la gouvernance internationale. Et je crois que on peut inventorier un certain nombre d'exigences. Je serais heureuse dans la discussion de pouvoir échanger avec vous. Je ne suis pas persuadée que ça soit spécifique à l'ordre international. Je pense que ce que je vais dire, c'est des propos que vous avez sans doute déjà eus dans le cadre d'autres conférences. Mais je crois qu'on les retrouve dans l'ordre international. Et cela, c'est intéressant de les mentionner. Il y a tout d'abord une exigence que j'appelle une exigence de flexibilité et souplesse. Exigence de flexibilité et de souplesse. Et qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de ces exigences? Cela a trait au fait qu'il y a des demandes de flexibilité, de souplesse dans l'encadrement juridique des activités, des situations. C'est-à-dire qu'il y a un appel à, si on peut dire, normer les comportements, à établir des paramètres de comportement en termes juridiques, mais l'on demande aussi que cet encadrement se fasse de manière flexible, évolutive et souple, qu'ils puissent varier en fonction des besoins. Alors vous avez, il y a des écrits, vous avez aussi travaillé sur ces écrits, mais pour moi il y a un écrit qui me paraît fondamental dans toute cette réflexion, c'est celui du professeur Chevalier sur le droit postmoderne, parce que je crois qu'il a aussi beaucoup saisi toutes ces questions. Il y a une citation qui est intéressante, il dit « La souplesse du droit postmoderne implique sa capacité à s'adapter à l'évolution du réel ». Et finalement, c'est ça, c'est de pouvoir s'adapter, de pouvoir être en phase, et donc c'est le mot d'adaptation qui est important et qui donc imprime cette nécessité de flexibilité, de souplesse. Alors, quand on parle de flexibilité, d'instruments flexibles, d'instruments souples, évidemment, on n'a pas un vocabulaire très fourni pour pouvoir qualifier ces instruments. Alors, on se retourne vers les notions que nous connaissons tous, celle d'instruments de soft law ou instruments à normativité dite molle, les codes de conduite, les directives, les résolutions, et puis que tous ces instruments soient adoptés par des organes publics, privés ou mixtes. Donc ça, c'est intéressant de voir que là aussi, il y a un flou. On se rend compte qu'il y a toute cette masse d'instruments qui sont importants et qui sont importants par rapport à cette logique temporelle, qui demande de l'adaptation et de la flexibilité. Alors c'est intéressant, là il y a un champ d'études important, c'est tout le recours au code de conduite. Là véritablement c'est un domaine en floraison, il y a des codes de conduite de toutes sortes. Mon propos n'est pas de justifier ou pas, ou de dire que certains codes de conduite ne valent rien, ça c'est une autre question. Mais ce que je pense qui est intéressant, c'est qu'il y a le recours à ces instruments, et qu'il y a un recours qui est même sollicité par les États, hein, parce que les États, dans leurs déclarations, notamment dans les... Il est intéressant de regarder les déclarations des États du G7 ou G8. Souvent, ils appellent à plus de codes de conduite, plus de standards, etc. Et donc, ce qui est intéressant pour les codes de conduite, c'est que souplesse, flexibilité, ça s'interprète à différents niveaux. Ça peut être au niveau macro, et toute une corporation professionnelle, comme ça peut être à l'échelle micro, hein, c'est à l'échelle d'une entreprise où il y a un code de conduite particulier. Et c'est peut-être ça un signe de flexibilité ou de souplesse, c'est le fait de pouvoir s'adapter à une réalité économique particulière au nom du droit. Un autre exemple d'exigence d'adaptation du droit, c'est tout ce qui a été ressenti dans le secteur financier depuis les années 90, fin des années 90, avec la crise asiatique, la crise financière asiatique, et toute la nécessité de repenser la régulation des activités financières. Il y a eu des appels à la libéralisation, il y a eu aussi la prise en compte que la libéralisation entraînait à des chocs frontaux terribles, et donc toute l'idée, c'était l'encadrement de cette libéralisation financière avec l'émergence de nouveaux standards. C'était aussi, ça rejoindra un autre point que je soulignerai, le fait que la régulation financière devait aussi prendre en compte les nouvelles technologies, commerce électronique, et donc de ce fait-là, il y avait une nécessité de mettre en place de nouvelles formes de régulation et de standards. Donc, le domaine financier, pour ceux qui s'y intéressent, à mon avis, c'est un domaine d'exploration pour comprendre ce que c'est que l'adaptabilité d'un standard et la raison d'être du recours à des standards internationaux. Une autre exigence en matière de recours qui sous-tend le recours à des standards internationaux, c'est la nécessité de ce que j'ai dénommé, peut-être un peu outrageusement, la nécessité d'avoir des partenariats à texture ouverte, des partenariats sui generis, des partenariats hybrides, non exclusifs, hein, souvent, pour répondre à des enjeux particuliers. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que, finalement, les alliances entre les acteurs qui vont formuler les standards vont se faire en fonction de considérations pragmatiques. Le pragmatisme, il est extrêmement important, comme logique de production de standards, et aussi une autre notion, qui est une notion, à mon avis, qui découle de tout notre mode de pensée actuel, la théorie des avantages comparatifs. C'est qui fait mieux cela qu'une autre personne devrait le faire, etc. Et donc, il y a des coalitions qui se font en fonction de cette logique économique. Alors, il est intéressant de voir que on peut retrouver des ensembles hétérogènes d'acteurs publics, privés, acteurs hybrides, dont on ne sait pas très bien quel est le statut sur la scène internationale. Je pense à l'ISO, c'est l'exemple type d'un objet non identifié en droit international public, mais qui a un rôle extrêmement important. Ou de quasi-organisation, ça serait peut-être l'ISO, qui produisent ce genre de standards. Dans le domaine financier, alors, je ne suis pas une experte du domaine financier, mais c'est extrêmement intéressant de voir que là aussi, il y a floraison de l'Organisation internationale des commissions de valeur, le comité de Bâle, le groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent, GAFI, sur lequel je reviendrai, ou la Chambre de commerce internationale, qui tous travaillent, la Banque mondiale, le FMI, qui tous travaillent sur des questions de régulation financière et qui peuvent travailler ensemble. Donc, en fait, du fait de la nécessité de travailler ensemble parce qu'ils ont des forces, des faiblesses qu'ils veulent joindre, la manière de pouvoir produire quelque chose, de pouvoir produire quelque chose qui va réguler, parce que je pense qu'on doit aussi utiliser ce terme, réguler les comportements, ça va se faire au travers de l'adoption de standards. Alors, ce qui est intéressant pour ceux qui s'intéressent au droit public, c'est que il est intéressant de voir que les États peuvent être partie prenante, hein, mais ils ne vont pas forcément être partie prenante en tant qu'État. Il va y avoir beaucoup aussi d'aspects de décentralisation dans la formulation, ou délégation de pouvoir pour formuler des standards. Alors, on pourra avoir des agences nationales qui vont participer à la formulation de standards, notamment par exemple en matière de supervision bancaire. Maintenant, pour les institutions, les acteurs mixtes, il va être difficile d'utiliser le terme d'organisation ou d'organe, parce que très souvent, c'est aussi des mécanismes très souples. Alors, on a très envie, en général, de se référer à la notion de réseau, parce que ça permet, comme ça, d'identifier un ensemble d'acteurs sans véritablement s'interroger et pouvoir avoir à définir précisément ce qu'est ce réseau et qui construit ce réseau. Et ça permet, ce que j'ai dit précédemment, de pouvoir avoir des alliances d'acteurs de différents statuts. Une question qui vient à l'esprit, sur laquelle on pourra revenir, c'est le problème de se poser si ces alliances n'ont pas une tendance à être élitistes dans le sens exclusive. Et ça, c'est tout le problème aussi de l'approche pragmatique ou en termes d'avantages comparatifs. C'est que ceux qui ont un rôle à jouer vont s'entendre pour formuler les standards, mais dans une société, les standards, c'est aussi pour avoir des effets pour la société en son entier. Et tout le problème, c'est de savoir s'il n'y a pas d'autres corporations, d'autres représentants de la société en son entier qui ne devraient pas être partie prenante à l'élaboration de ces standards. Et ça, c'est tout le problème sur lequel je reviendrai en conclusion, de la légitimité, qui, à mon avis, peut poser certains problèmes. Donc, une première exigence, flexibilité, souplesse. Une deuxième exigence, qui est celle de la nécessité de ces partenariats à texture ouverte. Une autre exigence, c'est celle de la prise en compte de la technicisation des matières, donc la nécessité, du fait du caractère très technique de nombreuses matières, la nécessité de mettre en place de nouvelles formes de régulation. Alors, les raisons de l'avènement de la technique et de la prise en compte de la technique, qui sont nombreux, vous connaissez tous les développements technologiques auxquels on a affaire, donc il faut les appréhender. La question, c'est de se demander est-ce que la norme juridique classique est apte à pouvoir les prendre en compte et comment. Ce qui me paraît aussi extrêmement important, notamment dans l'ordre international, c'est tous les équilibres à trouver. La pondération des intérêts, c'est que on a affaire à des pondérations d'intérêts techniques en termes comme, par exemple, commerce santé, commerce environnement, commerce alimentation. Ça va être très important sur l'agenda international. Et ça demande de rentrer dans le caractère technique de la matière. Alors, la question, c'est de se demander si les modes traditionnels de formation, de droit, sont capables d'appréhender, de prendre en compte technicité, ou s'il ne faut pas qu'il y ait une interaction finalement entre la norme, la règle technique et le standard qui serait un standard plus technique. Finalement, ça serait l'élaboration du fait de la technicité, les standards techniques permettraient de nourrir la règle juridique, nourrir la règle juridique, la rendre plus concrète par rapport aux exigences de la technicité. Et dans ce contexte-là, à mon avis, un bel exemple, c'est tout ce qui se passe, finalement, ce qui a été accepté à l'OMC. C'est que le commerce international a sa place à jouer parce que les États ont considéré qu'il fallait avoir un certain nombre de règles en ce domaine, mais il y a la nécessité de prendre en compte le fait qu'il y a des risques attachés à beaucoup d'activités. Et donc, comment prendre en compte ces risques? En formulant des standards et en acceptant de se référer à ces standards de comportement pour appliquer la règle juridique. Donc c'est, à mon avis, cette exigence de technicité, elle permet que l'on élabore, les corporations, les entités qui ont compétence pour ce faire, élaborent des standards qui vont concrétiser la règle juridique, qui vont lui permettre d'être plus concrète. Mais la règle juridique en elle-même ne peut pas prendre en compte ces aspects techniques. Et donc, elle va devoir avoir une interface, une relation avec les standards qui seront adoptés, élaborés. Alors, j'ai beaucoup parlé de l'OMC. Il est intéressant de voir, par exemple, que dans le domaine de la santé, à l'Organisation mondiale de la santé, il y a une prise en compte du fait qu'il y a des risques graves en matière de dissémination d'épidémie ou de transfert de virus, etc. Et donc, il y a eu toute la renégociation d'un instrument important de l'OMS qui est le règlement sanitaire international. Et le règlement sanitaire international, la grande question, c'est aussi de se demander est-ce que ça c'est une règle juridique ou est-ce que c'est pas un standard international, on va dire, de comportement, un standard d'alerte en cas de risque de maladie qui peuvent avoir des effets transfrontières. Quand on regarde le contenu de ce règlement, on voit qu'il y a un caractère extrêmement technique, il y a beaucoup plus un appel à des bonnes pratiques pour faire quelque chose, pour arriver à certains résultats. Donc, après avoir fait un survol sans doute trop rapide des exigences qui sont porteuses du recours à la notion de standard, ce que je voudrais faire maintenant, c'est d'essayer de m'interroger sur le rôle des normes et standards. Et l'un des rôles qui me paraît extrêmement important, c'est celui que les standards peuvent jouer en termes de socialisation de la gouvernance internationale. Socialisation de la gouvernance internationale, qu'est-ce que j'entends par cela ? C'est que dans l'ordre international, on voit la montée en puissance d'éthique, de nouvelles éthiques. De nouvelles éthiques, que ce soit une éthique en matière de droits de l'homme, qui est partie prenante, une nouvelle éthique en matière d'environnement, éthique en matière sanitaire, etc. Éthique en matière de lutte contre le terrorisme, on pourrait dire, etc. Éthique, c'est-à-dire que c'est des systèmes de valeurs qui frappent à la porte du système juridique et qui lui disent il faut que nous soyons pris en compte, il faut que le droit puisse répondre à certaines des aspirations qui sont formulées. Et alors, il est intéressant de voir que dans ce contexte, les organisations internationales ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer et il est intéressant de voir que elles vont pouvoir aider à la diffusion de ces éthiques au travers de la formulation de standards et de normes, hein, qu'elles vont utiliser ces standards et des normes comme des véhicules d'acheminement de certains de ces objectifs, de certaines de ces valeurs. Elles vont aussi, ces standards et ces normes vont pouvoir aussi quelquefois être édictés par des groupes particuliers et puis repris à leur compte par l'organisation internationale qui va alors pouvoir en assurer leur respect en demandant des comptes, etc. Alors, cette logique de socialisation et du rôle des standards, je vais essayer de l'illustrer avec des exemples et puis après on pourra revenir sur cela. Un exemple qui me paraît important dans le domaine des droits de l'homme, mais aussi c'est lié au droit social et au droit d'environnement, c'est l'initiative de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, c'est-à-dire le pacte mondial, hein, le Global Compact, qu'on le connaît mieux sous sa dénomination anglaise. C'est cette idée d'une organisation internationale qui était l'ONU, au travers de son secrétaire général, de conclure un pacte avec des grandes entreprises dans le monde, des grandes entreprises en leur disant il y a 10 commandements à respecter, 10 commandements. Ils ont commencé par 9, puis ensuite ils ont ajouté le principe de la lutte contre la corruption. 10 commandements à respecter, et pour cela, on va construire un partenariat. On va construire un partenariat au sein duquel il y aura les Nations Unies, il y aura les entreprises privées qui auront accepté de s'engager sur la voie du respect de ces principes, mais il y aura aussi les organisations internationales du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, etc. Et alors, l'idée, c'est que, bon, on peut dire que c'est des principes, parce que c'est des standards en tout cas avec une normativité précise, hein. Mais ensuite, ça donne lieu, ce qu'on appelle en anglais le trickle-down effect, c'est qu'il y a eu beaucoup de codes de conduite qui ont été adoptés par des entreprises qui mettent en place à leur manière ces standards dans le cadre de leur secteur d'activité ou dans le cadre de l'entreprise multinationale concernée, etc. Et donc, c'est une manière de véhiculer, d'acheminer un certain système de valeurs tel que reconnu comme important par les acteurs qui s'engagent à le mettre en place. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple, à mon avis, de standard comme véhicule de socialisation, ce sont deux initiatives que vous connaissez peut-être moins. Elles sont très au secteur financier. La première, c'est ce qu'on appelle les principes d'Équateur. La deuxième, c'est l'initiative de transparence des industries extractives. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est toute l'idée, acheminée par certains États et par les institutions financières internationales, de la nécessité de normaliser le comportement pour les principes d'équateur des banques privées et pour l'initiative de transparence des industries extractives, c'est les industries minières, c'est tout le domaine de l'exploitation minière, et donc de normaliser leur comportement au regard de certains avatars que l'on peut, qui ont pu être dénoncés. Alors les principes d'Équateur, ce sont, parce qu'ils ont été adoptés en Équateur, hein, ils ont été adoptés en 2003, et l'organisation internationale qui a beaucoup poussé à leur adoption, c'est la Société financière internationale. La Société financière internationale, c'est un des membres du groupe de la Banque mondiale, et c'est l'organisation du groupe de la Banque mondiale qui fait des prêts au secteur privé dans les pays en développement ou qui prend des parts de capital dans une entreprise située dans un pays en développement. Et toute l'idée derrière les principes d'Équateur, c'était de se dire finalement les institutions financières publiques, elles ont accepté, je reviendrai sur cela plus tard, de s'engager, d'être liées par des comportements, par des standards en matière de protection de l'environnement, en matière de participation du public, en matière, etc., en matière de respect des droits des populations autochtones. Et il faudrait que le secteur bancaire privé fasse de même. Et donc, dans ce contexte, il y a eu une initiative qui a été menée qui a réuni des banques comme ABN, comme Barclays, comme le Crédit Suisse, pour des banques très importantes, pour leur dire, finalement, n'accepteriez-vous pas de vous engager en formulant certains standards de comportement et finalement en reconnaissant que les standards opérationnels de la Société financière internationale devraient aussi être les vôtres quand vous faites des opérations de prêt pour des projets d'investissement dans des pays qui sont vos clients. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a affaire finalement, une corporation, c'est le secteur bancaire privé qui est extrêmement important, hein, qui détermine beaucoup de l'activité du développement. On a un lien avec une organisation publique internationale financière qui a une connaissance en ce domaine. Et il y a cette idée, finalement, de niveler les avantages comparatifs. C'est que chacun devrait être lié par les mêmes normes de comportement, hein, les mêmes standards de comportement et rendre des comptes par rapport à ces standards. C'est ça aussi, c'est qu'une fois qu'on accepte qu'il y ait ces standards, et bien on doit rendre des comptes. Et je reviendrai sur cela. Et donc, à l'heure actuelle, en vérifiant sur le site de la SFI, il y a une soixantaine de banques privées qui ont accepté d'être liées par ces principes. Alors, ça veut dire quoi? C'est que ça produit des effets juridiques après, parce que c'est inscrit, ou ça fait partie, finalement, des contrats de prêt qui sont négociés. Donc, là aussi, il y a une interaction avec la règle juridique, c'est que ça devient du droit par l'effet de la référence qui est faite dans des cas particuliers d'investissement. L'initiative de transparence des industries extractives, ça c'est ça a trait au secteur minier, ça a trait au fait que souvent l'on a parlé de corruption en ce domaine, de non-déclaration des gains. Et alors, toute l'idée, elle a été beaucoup poussée par le Premier ministre Tony Blair. Et puis, ensuite, elle a été travaillée de concert avec la SFI, hein, la Société financière internationale. C'est toute l'idée selon laquelle, finalement, une certaine éthique de comportement voudrait que quand les industries extractives financent, investissent dans un pays donné, l'idée c'était qu'elles rendent publiques les informations relatives aux paiements effectués par les entreprises impliquées dans le secteur minier et que l'on ait une idée des revenus perçus par les gouvernements. Donc en fait, c'est cette idée des standards qui sont utilisés dans ce domaine, dans ce secteur particulier, hein, de développement, d'investissement, qui a trait à rendre public des standards qui visent à rendre public les gains et les dépenses, les recettes perçues de part et d'autre. Et l'idée de cette initiative de transparence des industries extractives, c'est d'améliorer, alors ça c'est encore un autre leitmotiv des institutions financières, ce qu'on appelle la gouvernance de certains pays, et de mieux gérer, finalement, de mieux gérer les dépenses publiques et de mieux gérer leur budget et de lutter contre la corruption. Donc ça, c'est un autre exemple. À mon avis, il est aussi intéressant parce que il a trait à la gestion des ressources naturelles. Et donc, dans ce domaine, on sait qu'il peut y avoir beaucoup d'abus. C'est pas simplement l'extraction du cuivre, mais il y a aussi l'extraction des diamants, etc. Je vais revenir sur une autre initiative dans ce domaine. Et donc, toute cette idée, c'est véritablement de faire en sorte qu'il y ait une meilleure gouvernance. Ça, c'est une forme d'éthique, hein, on est d'accord ou pas, mais c'est une forme d'éthique qui est retranscrite au travers de certains standards de comportement. Et ces standards de comportement, une nouvelle fois, eh bien, elles appellent ceux qui se sont engagés à devoir rendre des comptes. Et ce qui est intéressant dans la pratique de cette initiative, c'est que la Société financière internationale s'est engagée à contrôler si ces engagements souscrits par certains États et par les sociétés commerciales étaient respectés. Alors, on a donc plusieurs exemples. Maintenant, le dernier exemple, et puis j'en aurai terminé, mais je n'épuise pas le sujet, parce que je pense que la créativité est très grande dans ce domaine. C'est ce qu'on a appelé le processus de Kimberley. Le processus de Kimberley, on en parle beaucoup en Suisse, que la Suisse a été l'initiatrice de ce processus. Mais il est intéressant, je pense, parce qu'il a trait... Qu'est-ce qui vise le processus de Kimberley? Il vise l'établissement, l'adoption d'un système international de certification pour les diamants bruts légalement extraits et commercialisés. Donc, cela a trait au fait qu'il y a une extraction... commercialisation des diamants. Et donc, toute l'idée, c'est de s'assurer que ce qui va être commercialisé, eh bien, ça aura été certifié. Ça aura été certifié, donc ça va être certifié par rapport à certains standards. Alors là, c'est un processus qui a été initié notamment par la Suisse à la fin des années 90, prenant en compte ce qui s'était passé notamment au Liberia et au Sierra Leone, etc., l'argent des diamants qui nourrissait les factions, les achats des armements, etc. Et c'est un système qui a été adopté de manière, enfin, qui réunit, là aussi, c'est un partenariat à texture ouverte, hein, c'est des États, c'est des entreprises. Le système est entré en vigueur le 1er janvier 2003. Et donc, pour les États qui font partie de ce système de certification, eh bien, ils acceptent, il y a un commerce, hein, c'est l'idée du commerce dans un club d'États, dans un groupe d'États qui aurait accepté de se lier par certaines normes, certains standards de comportement. Et toute l'idée, c'est que finalement, les diamants qui seront vendus ne soient pas des fruits illégaux dus à des pillages pendant des conflits, etc. Donc, la certification au regard de certains standards est une manière de rendre le marché du diamant en un sens plus éthique, entre guillemets. Alors, c'est un processus, là aussi, en regardant les informations relatives à ce processus, il est dit que depuis le processus de Kimberley compte 48 participants, en termes représentant 74 pays. Est associé aussi le secteur privé. 48 participants, ils participent l'Union européenne ou la communauté européenne, hein, parce que c'est les deux piliers, je pense, qu'ils doivent jouer, et qui n'a qu'une voix, c'est celle de l'organisation. Donc c'est pour ça qu'il y a cette différenciation qui est faite. Et donc en fait, on a maintenant un groupe assez large, hein, assez important d'États qui se sont liés par ce processus. Alors maintenant, revenant aux organisations internationales, il est intéressant de voir que le processus de Kimberley a été pris en compte dans le cadre des Nations Unies, et notamment dans le cadre des activités du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je rappelle que le Conseil de sécurité peut prendre des décisions à effet obligatoire pour la communauté internationale. Et le Conseil de sécurité a fait référence au processus de Kimberley pour ce qui avait trait au conflit du Liberia en 2003. Le Conseil de sécurité, dans ses diverses résolutions, a reconnu le lien qui existait entre l'exploitation illégale des ressources naturelles, notamment les diamants, mais aussi le bois, hein, et le conflit au Liberia. Et donc, l'une des décisions prises par le, le Conseil de sécurité, je le cite, ça avait été de dire que tous les États doivent prendre des mesures nécessaires pour interdire l'importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous les diamants bruts provenant du Libéria, qu'ils soient ou non d'origine libérienne. Mais en même temps, le Conseil de sécurité avait appelé à ce que les États mettent en place, respectent les conditions du processus de Kimberley, en disant finalement, on interdit, mais si le processus de Kimberley pouvait trouver application, il pourrait y avoir des exportations légales de diamants. Le Libéria a adhéré au processus de Kimberley en 2007, et donc le Conseil de sécurité a mis fin aux mesures de restriction posées en 2003. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est gardé un droit de regard. Il s'est donné un droit de regard pour être sûr que, véritablement, le processus de Kimberley, tel qu'il est envisagé, les engagements du Libéria seraient respectés, au titre de ce processus, se seraient respectés. Donc, là aussi, ça, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la gouvernance d'une organisation à compétence exécutive, c'est le Conseil de sécurité, il est fait référence à des standards qui sont des standards de comportement qui ont été... Qui n'ont pas une forme juridique de droit positif préétabli selon les sources du droit international classique. Alors, autre exemple, mais je le cite simplement en passant en termes de socialisation, c'est toute l'action, les initiatives de lutte contre le blanchiment d'argent. Et puis à partir de 2004, le lien qui est fait entre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme, où on va essayer de lier ces deux aspects. Là aussi, pour ceux qui s'y intéressent, vous retrouverez un ensemble, un conglomérat de différents acteurs. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est les fameuses 40 recommandations du fameux GAFI. Le GAFI, c'est le groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux, qui est une initiative, un groupe mis en place sur décision du G7 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Et donc, tout cela, c'est qu'après, c'est repris par différentes organisations qui le mettent en place, qui les traduisent dans leur propre terminologie pour arriver. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand c'est repris par ces différentes organisations, ça peut être des institutions financières internationales. Mais en faisant la recherche, je me suis rendu compte que même le Comité international des standards comptables et la Fédération internationale des comptables avaient pris en compte les recommandations du GAFI, etc. Donc on retrouve cet aspect de socialisation à plusieurs niveaux. Alors, maintenant de manière plus courte, un autre rôle des standards, c'est la normalisation, si l'on peut dire. Le rôle de normalisation, c'est le troisième point. Je me suis surtout intéressée comme exemple au cas de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et il est très intéressant de voir qu'il y a une acceptation dans le cadre de l'OMC, notamment par les parties qui ont négocié ces accords. Il est accepté qu'il doit y avoir des espaces de politique publique pour les États afin de protection de la santé ou afin de protection de l'environnement, puis cela a été encouragé par les organismes de règlement des différends de l'OMC. Alors, une des manières, il y a des accords qui ont reconnu cela, c'est l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, dont j'ai déjà parlé, et puis l'accord sur les obstacles techniques au commerce, toutes les régulations techniques que les États peuvent prendre. Mais reconnaissant cet espace public, cet espace de politique publique pour les États, il y avait aussi la prise en compte que finalement, ça laissait beaucoup de place à la discrétion des États. C'est que chacun peut décider que c'est ce qu'il veut faire pour protéger sa santé ou pour protéger son environnement, etc. Et donc, il y a eu toute cette volonté aussi de se dire, mais il faudrait qu'on ait des standards internationaux de référence et qu'au moins, on puisse se référer à certains standards internationaux. Et alors, l'idée, et ça a été fait dans les deux accords, accord SPS et accord OTC, c'est qu'il y a eu une référence à certaines organisations internationales qui ont été légitimées par l'OMC comme des organisations qui avaient compétence pour fabriquer, produire, adopter des standards internationaux. Et la conséquence qui en découlait, c'est que les États qui se conformeraient à ces standards internationaux, eh bien, ne seraient pas accusés de violer le droit de l'OMC. Donc, il n'y avait plus de charge de la preuve de montrer qu'il n'y avait pas d'autres mesures nécessaires pour les États. Alors qu'ils pourraient prendre des mesures plus protectrices que les standards internationaux, mais à ce moment-là, ils devraient démontrer qu'ils ont tout fait et qu'ils ont pris les mesures qui étaient justifiées au plan scientifique dans des conditions appropriées, telles que définies au plan international. Alors, ce qui est aussi quand on regarde l'accord SPS, c'est intéressant de voir qu'il y a une légitimation de certains et l'accord OTC, il y a une légitimation de certains organes qui ont la compétence, ce que j'avais dit en introduction, pour formuler des standards, le codex, la commission du codex alimentarius, l'Office international des épizooties, maintenant c'est l'Organisation mondiale de la santé animale, si vous pensez à la grippe aviaire, c'est devenu une organisation extrêmement importante en termes de normalisation de comportement, l'Organisation internationale pour la normalisation, ISO, et les standards développés dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux. Donc là, pour eux, on n'a pas de doute. Maintenant, le grand problème, et ça c'est tout un grand sujet de discussion finalement, c'est de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres organes qui ont compétence pour formuler des standards qui devraient être pris en compte par l'OMC dans le cadre de l'accord SPS ou l'accord OTC? Et ça, c'est la grande difficulté pour l'heure. Et finalement, ça relève. Alors, dans le cadre de l'accord SPS, il faudrait que le comité SPS dise oui, je reconnais que cette organisation a compétence, notamment par rapport à ces standards. Pour l'accord OTC, c'est plus souple. C'est plus souple, mais il faudrait encore voir comment est-ce que les standards pourraient être réceptionnés dans l'accord, dans cet accord. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que là, on voit que ça répond à plusieurs fonctions. Il y a à la fois cette idée de prendre en compte la nécessité de respecter certains standards, et puis aussi que le respect de ces standards devrait se faire de telles conditions qu'elles permettent aussi une fluidité du commerce international. Et donc on va légitimer certaines organisations qui, elles, sont certifiées comme pouvant fabriquer et adopter des standards qui seront pris en compte par les organes de règlement de l'OMC. Alors, parlant de règlement, des organes de règlement de l'OMC, il y a eu une fameuse affaire qui a opposé la communauté européenne au Pérou sur la désignation commerciale des sardines. Qu'est-ce que c'est qu'une sardine? C'est un grand problème. Et tout peut ressembler à une sardine sans que ça soit véritablement une sardine. Et donc, la question, c'était le fait de savoir qui peut nous le permettre. Et il était en cause un standard adopté dans le cadre de la commission du codex alimentarius. Et donc, la question, la communauté disait, non, vous ne pouvez pas vous référer à ce standard parce qu'il n'a pas été adopté par consensus. Et dans le panel que l'organe d'appel de l'OMC ont dit, ce n'est pas dans la définition du standard qu'ils doivent être adoptés par consensus. Et donc, nous l'appliquons. Voilà, il bénéficie à la partie gagnante. Donc, là, je pense qu'il y a une question qui est intéressante, qui n'est pas résolue, c'est comment est-ce qu'on adopte, comment est-ce qu'on produit un standard et quelles sont les conditions de légitimation de ce standard. Alors, cette affaire a mis en éclairage un aspect, il y en a d'autres. Maintenant, dernier point sur les normes et standards, c'est ce qui me semble important, que j'ai déjà un tout petit peu mentionné, c'est les normes et standards et le jeu qu'ils jouent dans la responsabilisation des acteurs concernés. Donc, normes et standards et responsabilisation des acteurs concernés. Dans ce domaine aussi, comme on n'est pas dans des processus juridiques de type classique, on utilise des notions très souvent pour parler de cette responsabilisation. On utilise la notion de transparence. Très bien, ça c'est aussi un contour variable, la notion de transparence. Où on utilise cette notion anglaise qui est intraduisible en français, mais aussi en espagnol ou dans d'autres langues, c'est « accountability », c'est la notion de rendre des comptes. Et la notion d'accountability, à mon avis, elle représente finalement ce que l'on veut, c'est rendre des comptes par rapport à ces normes de comportement, ces standards particuliers qui ont été élaborés selon des processus particuliers. Par exemple, exemple qui peut être donné de manière rapide, c'est les politiques, un exemple de standard, les politiques opérationnelles de la Banque mondiale, j'en ai déjà parlé tout à l'heure pour la Société financière internationale et les principes d'Équateur, c'est cette idée de prise en compte progressive par la communauté internationale, par la Banque mondiale, qu'il fallait aussi poser certaines exigences en matière de prêts, que finalement les prêts pouvaient avoir des conséquences désastreuses en matière de protection de l'environnement, de protection des populations vulnérables, etc. Et donc progressivement, l'organisation financière s'est dotée de politiques opérationnelles en matière d'études d'impact, en matière de déplacement de compensation quand il y a déplacement de population, etc. Donc des standards, alors déjà, ça a joué un rôle très important, c'est que ça a été une possibilité pour les acteurs extérieurs d'avoir ce qu'on appelle en anglais des benchmarks, hein, d'avoir des points de repère pour pouvoir dire est-ce que vous avez vraiment fait ça ou est-ce que vous n'avez pas fait ça, est-ce que vous l'avez fait. Donc, et puis après, ben, les organisations demandaient plus d'assurance et ça a conduit à la création d'un mécanisme qui est très intéressant, qui est le panel d'inspection de la Banque mondiale. Le panel d'inspection de la Banque mondiale, c'est un mécanisme qui n'est pas classifiable dans les... selon la terminologie classique du droit international, mise en place par la Banque mondiale. C'est une procédure d'inspection qui peut être saisie par des particuliers qui s'estiment lésés par un projet de financement de la banque. Et le particulier, le groupe de particuliers, parce qu'il faut que ce soit un groupe, ne peut mettre en question que le comportement de la banque, pas le comportement de l'État emprunteur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas mettre en éclairage les défaillances de l'État emprunteur, mais en tout cas, ce qui est visé, c'est le comportement de la banque. Et comment est-ce qu'on va mettre en question le comportement de la banque ? Eh bien, on va se référer, il faut se référer à ce que j'appelle le droit matériel, c'est les standards, les politiques opérationnelles de la Banque mondiale. Donc, tout ça, c'est pour dire que formulation de standards, plus grande transparence, plus grande responsabilisation, mais ça appelle après à être sûr que véritablement ces standards soient mis en œuvre, et donc on crée des mécanismes innovatifs de contrôle pour s'assurer que ces standards soient respectés. Autre exemple dans ce type, dans la recherche que j'ai faite pour préparer cette conférence, qui m'a paru aussi très important, c'est une autre valeur puissance dans la communauté internationale, la lutte contre la corruption. Maintenant, on en parle partout, sans très bien savoir ce que c'est que la corruption, parce que ça répond à différentes définitions. La Banque mondiale s'est attachée à cette lutte, en se disant qu'il fallait absolument lutter contre la corruption. Il y a eu un renforcement des politiques opérationnelles qui existaient en matière de marché public, considérant que ce n'était pas suffisant. Des directives de lutte contre la corruption ont été adoptées en 2006, et ces directives, il a été considéré que de toute façon, on pouvait avoir des directives, mais il fallait aussi des mécanismes de contrôle du respect de ces directives. Et alors là, vous irez sur le site de l'organisation, c'est très intéressant, c'est qu'il y a à la fois maintenant au sein de la Banque mondiale un département qui suspecte, hein, puis après le département qui suspecte, il va transmettre le dossier au bureau d'évaluation et de suspension. Alors c'est le responsable de l'évaluation et de la suspension qui va voir s'il y a matière, hein, c'est ça, avec les règles qui ont été fixées. Et puis, s'il y a matière, il peut y avoir une proposition de sanction. Hein, suspense, ça peut être une lettre, je lis ce qui est mis sur le site, une lettre publique de réprimande, exclusion, la non-exclusion conditionnelle, exclusion avec levée conditionnelle ou la réparation. Hein, donc différents types de sanctions. Mais ils se sont rendus compte que justice devait quand même être un tout petit peu rendue. Et donc, il y a un comité de sanctions maintenant qui a été mis en place, composé de sanctions, composé à la fois du personnel de la Banque mondiale et puis de juristes, de personnalités extérieures qui vont siéger dans ce conseil des sanctions. Alors, pour un juriste, il est extrêmement intéressant de s'intéresser à ce qu'est véritablement ce conseil des sanctions. C'est du droit administratif et du droit avec une inspiration de mécanique, de procédure juridictionnelle. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les standards ont appelé à mettre en place des mécanismes de contrôle. Autre exemple, aussi en passant, toutes les dispositions mises, formulées à propos du blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme ont conduit à ce que les organisations, tout autant qu'elles soient, renforcent leur mécanisme de contrôle et d'enquête. c'est efficace, c'est pas efficace, ça c'est un autre problème. Hein. Mais il y a eu cette volonté de renforcer le contrôle, et notamment le FMI s'est reconnu compétent en ce domaine pour être beaucoup plus regardant sur toutes les questions de blanchiment d'argent. Tout cela en application, en ayant intégré les recommandations du GAFI. Alors en conclusion, c'était ce que j'ai essayé de faire, c'était un espèce de tableau, hein, de tableau sur la raison d'être, le rôle, les fonctions des standards internationaux, évoquer quelques questions. Mais en conclusion, il y a une question qui me paraît importante, c'est la question de la légitimité de tout cela. En la posant, je ne suis pas du tout sûre de pouvoir vous donner une réponse sur ce que devraient être les critères de légitimité, parce qu'il me semble, moi, que la légitimité, c'est le fondement nécessaire pour toute règle juridique, tout système normatif. Et dans le cas précis, est-ce que l'on doit se dire que la légitimité ne doit s'entendre qu'en termes pragmatiques, en termes d'avantages comparatifs, en termes d'efficacité? Ou est-ce qu'il y a d'autres critères de légitimité qui doivent être auxquels il doit être fait recours? L'on a bien conscience du fait que les méthodes traditionnelles du droit international, ou même du droit national, ne sont pas satisfaisantes parce que c'est des processus trop longs, parce que ça suppose des compromis quelquefois énormes, hein, tant au plan national qu'au plan international, parce que souvent les corps législatifs nationaux, mais aussi les États au plan international, ne sont pas toujours soucieux de l'aspect très technique de l'exigence, etc. Et donc, on se dit qu'il faut passer par cette autre voie de production pour standardiser les comportements, ou en tout cas pour édicter des normes de comportement. Mais cela étant dit, je crois une base de légitimité, c'est qu'en tout cas, les grandes questions traitées devraient trouver une assise dans le cadre de règles juridiques définies dans le cadre de traités internationaux ou de principes de droit international, c'est-à-dire qu'à mon avis, l'enracinement, c'est quand même la volonté politique générale de reconnaître, par exemple, que les droits de l'homme, ça fait partie de l'ordre public international. La protection de l'environnement, ça fait plus de doute que maintenant les États ont accepté que ça faisait partie de nécessités auxquelles il faut absolument faire face. Maintenant, donc ça c'est un ordre, une question. La question après, c'est la légitimité au regard des processus d'élaboration des standards. Et là aussi, ce que l'on voit, c'est que c'est très souvent ces partenariats, c'est presque des communautés épistémique, hein, c'est le savoir qu'ils ont dans le domaine financier qui fait qu'ils travaillent ensemble, c'est le savoir qu'ils ont dans le domaine comptable, c'est le savoir qu'ils ont dans le domaine de la santé. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi inclure d'autres, des représentants hauts de la société qui seront affectés, hein, par ces standards d'une manière ou d'une autre? Et la question, c'est de se dire, est-ce que là aussi on ne devrait pas parler des voies multiples nécessaires, d'auditions publiques, de processus de consultation, d'enquête publique, je ne sais pas. Mais juste pour que nous-mêmes, nous consommateurs, hein, nous sommes l'objet de tous ces standards, ou d'autres individus situés, nous puissions aussi faire valoir notre point de vue sur le bien fondé de ces standards pour qu'ils aient une certaine assise de légitimité sociale. Voilà, avec ces quelques réflexions, j'en ai terminé et je vous remercie d'avoir été très patient.